RTBF, matin première.
Et à 7h25, on continue à parler de sport avant de revenir évidemment sur la colère du monde enseignant et ce vote cette nuit au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On poursuit notre histoire de la Coupe du Monde de football avec vous, Pierre Marlet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cap sur l'Espagne ce matin. Nous sommes en 1982, Pierre, et pour la première fois, peut-être, la Coupe du Monde porte bien son nom. Le Mondial accueille non plus 16 équipes, mais 24 équipes.
24 équipes, dont la Belgique. Et on peut dire que 1982 constitue un tournant pour les Diables Rouges. Vous allez comprendre. Il y a eu, avant 1982, 11 Coupes du Monde, 5 participations belges, 7 défaites, 1 nul, 1 victoire. Et nous sommes toujours éliminés au premier tour. À partir de 82, 11 Coupes du Monde, 9 participations belges, et on accède 7 fois au moins au second tour. Le tournant, eh bien, il a lieu le 13 juin 82 à Barcelone, avec le match d'ouverture contre l'Argentine.
Francky Vercotteron, avec Ardiles devant lui. Il a centré vers Van den Berg. Il est seul, il doit marquer. Et oui, il marque.
Le commentaire final de Roger Laboureur va tout résumer. Nous avons désormais une place sur la planète foot.
Et c'est la victoire des Diables Rouges. Nous avons battu les champions du monde dans ce match d'ouverture devant 105 000 spectateurs et devant 1 milliard de téléspectateurs.
Voilà, les Diables qui se font un nom donc à partir de 1982, même si le second tour en 82 est moins glorieux, Pierre, avec 2 défaites contre l'URSS 1-0 et surtout contre la Pologne 1-0 également. 3-0, voilà. Trois équipes vont marquer ce tournoi qui se déroule dans la jeune démocratie espagnole.
Quand l'Espagne avait été choisie pour accueillir le Mondial, c'était encore Franco au pouvoir. Depuis lors, un vent de liberté a soufflé sur l'Espagne qui va adhérer 4 ans plus tard à l'Union européenne. Et les 3 équipes qui marquent cette Coupe du Monde sont précisément européennes. Avec d'abord la France de Platini et de Gires, qui connaît une mésaventure incroyable dans son match contre le Koweït. En fin de match, les Français inscrivent un 4e but. Mais les Koweïtiens s'étaient arrêtés croyant à un hors-jeu. Alors, à la stupéfaction générale, l'émir du Koweït se lève dans les tribunes.
Le Cheikh qui descend sur le terrain. L'arbitre qui est en train de revenir sur sa décision et qui va faire une balle à terre.
En fait, c'est un scandale parce que s'il suffit qu'un président de fédération descende sur la pelouse.
Alors l'arbitre soviétique a cédé à la pression de ce Cheikh, sera radié à vie, mais ce but annulé n'aura aucune conséquence pour une équipe de France séduisante qui accède en demi-finale.
La France qui sera opposée en demi-finale à l'Allemagne de l'Ouest, deuxième équipe phare évidemment de ce mondial, une équipe qui a créé la polémique en qualification.
Avec le match Autriche-Allemagne de Gijón, où l'Allemagne mène rapidement 1-0. Alors, les deux nations germanophones s'entendent pour jouer à la baballe dans un non-match. Ce score les arrange toutes les deux pour passer au second tour. Ainsi, l'Allemagne va terminer première et l'Autriche deuxième. Tout cela au détriment de l'Algérie qui, au goal average, malgré 2 victoires, est éliminée.
Mais la polémique de ce mondial, elle aura lieu, Pierre, dans le stade de Séville, dans une demi-finale entre la France et l'Allemagne, qui pour la France apparente à une véritable tragédie.
En prolongation, c'est 3-1 pour la France, à moins de 20 minutes de la fin. Mais Karl-Heinz Rummenigge, qui vient d'entrer, marque 2 buts et l'Allemagne l'emporte finalement au pénalty. Pour les Français, tout cela est vécu comme une énorme injustice, car il y a eu dans ce match cette phase où Battiston, lancé par Platini, est délibérément chargé à l'entrée du rectangle par le gardien allemand Schumacher. Le pénalty est évident, la carte rouge aussi, mais l'arbitre ne siffle pas. Écoutez Thierry Roland et Jean-Michel Larquet.
Schumacher s'était jeté sur Platini en première mi-temps, il s'était jeté sur Tic, il s'était jeté sur Hocheteau, et la première occasion en deuxième mi-temps, alors que là, regardez, Battiston joue parfaitement le ballon, lui, avec sa hanche, frappe le visage de Battiston, KO, la civière est sur le terrain, et on va évacuer Patrick Battiston.
Et pendant tout ce temps, le coupable, Schumacher, il mâche son chewing-gum sans se préoccuper de Battiston qui est dans le coma. Cette image de brutalité réveille en France de terribles souvenirs, poussant même le chancelier allemand à écrire au président français « Nous sommes de tout cœur avec les Français qui méritaient la victoire autant que nous ».
C'est vrai qu'il faut aller revoir les images, elles sont disponibles facilement sur le net. C'est vrai que la charge de Schumacher est assez impressionnante. Bon, en finale, l'Allemagne de l'Ouest affronte la 3e équipe qui aura marqué le mondial, c'est l'Italie. Et son attaquant phare, Paolo Rossi.
Une équipe assez médiocre au premier tour qui se réveille avec Rossi contre le Brésil et qui ensuite écrase tout sur son passage. En finale, l'Italie bat l'Allemagne 3-0. Après les victoires lointaines de 1934 et 1938, la voilà championne du monde pour la troisième fois de son histoire.
Merci beaucoup Pierre pour cette histoire de la Coupe du Monde 1982. Demain, évidemment, samedi matin, vous nous racontez Mexico 86. C'est dans Week-end Première. Et pour celles et ceux qui n'ont pas le courage de se réveiller, c'est évidemment disponible aussi en podcast et sur Ovio. Merci beaucoup Pierre Marlet.
RTBF. La Première.